Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous revenons ensemble au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Les deux visiteurs. Le téléphone s'est mis à vibrer sur la table basse. C'était un nouveau SMS de Pointel. J'ai compris que maintenant il ne me lâcherait plus. Ma solitude était foutue. Avant même que je n'aie eu le temps de lire son SMS, on a sonné à la porte. C'était trop pour moi. Il ne se passe absolument rien dans ma vie depuis 5 mois et en quelques heures, non seulement on m'envoyait une rafale de SMS, mais en plus, on frappait à ma porte. J'étais complètement débordé. Qu'est-ce qui était le plus important ? Répondre au SMS ou ouvrir la porte ? Je ne savais plus où j'en étais. La perspective d'aller dîner avec quelqu'un implique des efforts. Si je m'écoutais, j'irais plutôt me jeter dans une fontaine ou courir derrière les voitures sur le périphérique. J'avais déjà du mal à me concentrer sur cette soirée, alors m'occuper des gens qui frappent à la porte, c'était carrément au-dessus de mes forces. Et si c'était Pointel ? Il ne connaissait pas mon adresse, à moins que je ne l'aie noté sur son exemplaire du scénario. Mais non, impossible qu'il se déplace jusqu'ici. Et puis pourquoi m'inviterait-il au restaurant si c'était pour venir finalement sonner à ma porte ? Une phrase m'est revenue. Une phrase qui provenait de ce cahier dont je vous ai parlé. Une phrase à laquelle j'ai recours quand ça va mal. Longer à pas de loup la mince cloison qui me sépare de moi-même. Cette phrase, je l'aimais bien, et en dépit de son caractère terrible, il y a quelque chose de réconfortant dans sa maigreur. On a l'impression qu'il suffit de la prononcer pour qu'elle se réalise. Oui, en la répétant à voix haute, je longeais vraiment à pas de loup la mince cloison qui me sépare de moi-même. Je découvrais une énigme et en même temps, je continuais à m'en rapprocher. J'entrais dans ce domaine obscur où le calme ne cesse de revenir. C'est grâce à cette phrase en la chuchotant que je me suis approché de la porte. J'ai regardé par l'œil de bœuf. Il y avait 2 types, avec une grosse chevelure noire et des moustaches. J'ai retenu mon souffle. Était-ce une illusion d'optique ? Ils étaient l'un et l'autre semblables, même chevelure, même costume, même moustache. J'étais le capitaine Willard, qu'on vient chercher dans sa chambre d'hôtel pour l'envoyer en enfer. Mais ces deux-là étaient plus bizarres qu'un couple de militaires chargés de vous arrêter. Ils avaient à la fois ce petit visage des témoins de Jéhovah dont le zèle insensible aux rebuffades m'exaspérait d'avance, la rigueur inoxydable des huissiers, et un autre type de folie plus tortueuse, plus malsaine encore, qui tenait à leur symétrie, à leur sourire figé, à la blancheur incongrue de leur costume. Ils ont de nouveau sonné. Rivé à l'œil de bœuf, je pestais. Mais qu'est-ce qu'ils me voulaient, ces 2 cons ? Et comment avaient-ils pu échapper à la vigilance de Madame Figaud ? J'ai pensé de manière absurde, ils sentent la toile d'araignée. Méfie-toi des araignées, surtout celles qui s'accrochent à ta porte. Je n'avais aucune intention d'ouvrir. Le mieux, c'était de faire le mort. À la troisième sonnerie, qui n'en finissait plus, l'un des deux moustachus, ayant enfoncé son doigt sur la sonnette sans la relâcher, Saba s'est mis à aboyer. En quelques secondes, ses aboiements se sont changés en cris de rage. Je ne le reconnaissais plus. Il était déchaîné. La bave aux lèvres, il bondissait contre la porte comme s'il voulait la défoncer. Ses hurlements étaient ceux d'un loup. Les deux types n'ont pas eu peur. Au contraire, encouragés par la présence d'un chien, ils se sont mis à frapper à la porte d'une manière si brutale, si dérangeante, qu'affolé par le boucan et pour le faire cesser, j'ai ouvert brusquement. Alors Saba s'est faufilé entre les deux types et a foncé vers l'escalier. Je m'étais trompé. Les deux types ne se ressemblaient pas. Ils avaient effectivement tous les deux une moustache, mais elle était différente. L'une, ourlée vers le haut, finissait en pointe et conférait à son porteur une distinction à la limite de la fantaisie. L'autre semblait plus grasse et venait mordre sur la lèvre supérieure. Les deux étaient très noirs, comme les chevelures, et leur costume semblait faux. Sans doute s'en était-il affublé spécialement pour venir sonner chez moi, mais dans quel but? En quoi était-il déguisé? J'étais sur le point de le leur demander quand je remarquai que l'un des vêtements différait de l'autre. La veste du type de gauche était pourvue de toutes sortes de plis, de poches, de boucles et de boutons qui lui donnaient une apparence particulièrement pratique, sans qu'on pût cependant comprendre à quoi tout cela pouvait servir. Et il y avait un dernier détail qui la différenciait. Le type de droite, celui qui parla en premier, portait l'un de ces répugnants petits sacs en cuir qu'on nomme un baise-en-ville. Oui, ils avaient l'air déguisés, ou disons endimanchés. Et peut-être leur moustache même était-elle postiche. Mais à coup sûr, si j'avais essayé de les leur arracher, elles se seraient avérées naturelles et ils auraient poussé de grands cris. « Êtes-vous Tot ?» dit celui à la moustache élégante. « Non ? » « Je suis moi. »« Vous n'êtes pas Tot, » reprit le second moustachu avec un peu d'hostilité. « Non, je vous assure. »« Alors Tot, c'est qui ?»« Ben, c'est l'autre. »« Quoi l'autre ? L'autre porte, » dis-je, en indiquant l'appartement derrière eux. Ben, « il n'y a personne là-dedans. Tot, c'est vous. Ben, »« Je vous dis que je ne suis pas Tot. Il est en voyage. Qu'est-ce que vous lui voulez ?»« Où ça, en voyage ?» Oh, je ne sais pas. Écoutez, il faut que j'aille chercher le chien, dis-je en faisant un pas vers la porte de l'escalier. Ben, c'est pas son kleps, me dit le premier moustachu en se dirigeant lui aussi vers l'escalier. Oui, dis-je exaspéré, c'est moi qui le garde. Je garde le chien de Tot. Je me retournai. Tandis que je parlais avec moustachu 1, Moustachu 2 s'était introduit chez moi, et déjà il appelait de l'intérieur. « Karl, viens voir ça !» J'étais furieux et me précipitai dans l'appartement suivi de Karl, Moustachu 1. Moustachu 2 était planté devant le grand écran où l'on voyait en gros plan les seins d'une femme. L'image était arrêtée, et tandis que je hurlais pour que ces deux tarés fichent le camp de chez moi, Moustachu 2 brandit la télécommande en direction de l'écran et le film s'anima. Une jolie fille aux cheveux blonds divaguait tandis qu'un type la déshabillait. Il avait presque entièrement déboutonné son chemisier à fleurs. Elle se laissait faire. Ses seins étaient blancs, lourds, superbes. « Il s'est tapé un porno !» ricana Moustachu 2, comme si je n'étais pas là. « Mais pas du tout. C'est Apocalypse Now, » dis-je. C'était la scène des Bunnies. Pour maintenir le moral des troupes, le commandant américain a invité des stripteaseuses. Elles arrivent dans un hélicoptère noir frappé du lapin de Playboy et se trémoussent sur une piste de fortune à moitié nue au son d'un tube rock'n'roll. La performance dégénère. Sur les gradins, les G-Highs surexcités envahissent la scène. Les filles sautent dans l'hélicoptère qui décolle en catastrophe avant de s'échouer, faute de carburant, dans un coin perdu du Cambodge, au bord du fleuve où le capitaine Willard et ses hommes font escale. Sans même y penser, je m'étais assis sur mon divan pour apprécier pleinement ce moment crucial d'Apocalypse Now. Aussi fou que cela puisse paraître, j'avais oublié instantanément les deux types et replongé dans le film. Cette scène d'Apocalypse Now peut paraître mineure, tant le face-à-face halluciné entre le capitaine Willard et le colonel Kurtz capture à lui seul l'intensité de l'intrigue. Mais chaque vision en approfondit la cruauté. Et en la revoyant une fois de plus, je comprenais que derrière la mascarade d'un striptease pour soldats, tandis que Miss Octobre et Miss Mai se dandinent sur leurs hauts talons, l'une attifée en indienne, l'autre en cow-boy, c'est l'immémoriale pâture à quoi sont réduites les femmes qui s'exhibent en plein cœur du massacre guerrier. Selon moi, il était évident que cette scène d'Apocalypse Now, qui est avant tout un film masculin, avait une importance fondamentale. Elle disait que la mise à mort ne s'arrête jamais parce que la concupiscence des hommes mène les femmes à la pierre du sacrifice. J'avais complètement oublié la présence des deux clowns. Est-ce qu'ils étaient, comme moi, requis par le film, ou avait-il profité de ma distraction pour inspecter mon appartement? Sérieusement, je ne me souviens plus. Car chaque fois que m'apparaît l'hélicoptère des Bunnies, entravé dans le déluge de la jungle, ma pensée s'envole. Je pense à Moby Dick. Je pense à l'Arche de Noé. Et tandis que j'écris ces phrases, des colombes volettent dans la forêt autour de moi. Au milieu d'une guerre, l'arche attend d'être remise à flot et par les fenêtres on voit des femmes nues. Est-ce là qu'ont lieu les métamorphoses? Je crois que quelque chose de plus obscur encore s'y déroule depuis toujours, qui relève du trafic entre les hommes et les dieux, c'est-à-dire de la folie des récits. Pour bien comprendre cet extrait d'Apocalypse Now, il faut savoir qu'en échange de deux bidons de gasoil, Willard a négocié 2 heures avec les Bunnies. Les soldats pénètrent dans l'hélicoptère surexcités, et voici qu'à travers une lumière blonde qui semble découper un îlot de chaleur où volent des perroquets verts, jaunes, rouges, elles se laissent déshabiller. Au milieu de cette boue, leur corps semble un paysage de douceur. Voilà, c'est là où j'en étais lorsque les deux types avaient sonné. Et c'est là que nous avions repris. La jeune blonde au sein lourd est en larmes. « Être playmate de l'année, dit-elle, c'est une solitude inimaginable. On est séparé par une paroi de verre, une paroi invisible. Il y a tous ces trucs qui m'ont fait faire. » Une autre fille, brune et pulpeuse, fait un numéro où elle dresse des oiseaux. Et tandis qu'un des soldats l'enlace, les perroquets s'agitent autour de ses épaules. « Tu embrasses comme un oiseau, dit-elle. » Voici qu'ils roulent, tous les deux dans la boue, en poussant des petits cris. Une valise s'ouvre. Il y a le cadavre d'un homme à l'intérieur. J'aime bien cette scène parce que l'orgie espérée par les soldats sombre dans la mélancolie du sacrifice. Le cri d'oiseau que pousse la plémette ne remplace aucune jouissance. Il substitue à l'existence même de la jouissance celle d'une pauvre agonie. Dans ce monde en perdition, il n'y a que des victimes. Thank you.
la clope. Paradis pour tous ceux qui cherchent Dieu sait qui, Dieu sait quoi. De frissons faciles en propos futiles, de dragues habiles en automobile. Ce soir, je n'ai Dieu que pour toi. Ce soir, je n'ai Dieu que pour toi. Qui cherche Dieu sait qui, Dieu sait quoi. Je vais encore sortir ce soir. Je le regretterai peut-être. Je vais encore sortir ce soir. Je le regretterai sans doute. Deux cocktails subtils en fille docile, deux discours faciles en regard mobile. Enfin, quelques vers nous rapprochent. Enfin, c'est dans la poche. Je cherche Dieu sait qui, Dieu sait quoi.
Denis Flageol.
Yannick Hennel, suite du roman Tiens ferme ta couronne. Devant la porte. À 20h, j'arrivais chez Bofinger. C'était un samedi, il y avait foule. Je précisais qu'une table était réservée au nom de Pointel. Le maître d'hôtel, un jeune homme nerveux à la calvitie précoce, une sorte de sosie d'Emmanuel Macron, répondit qu'en effet, M. Pointel dînerait ici ce soir, sous la verrière, à sa table habituelle, mais pas avec un chien. « Quel chien ? » dis-je. Le maître d'hôtel, flairant l'embrouille, se contenta de montrer du doigt Saba, qui sagement nous écoutait, langue pendante. « Ce n'est pas un chien, » dis-je. Il s'appelle Saba, c'est mon ami. Le maître d'hôtel avait du sang-froid. Dites à votre ami que nous sommes désolés, mais qu'il ne pourra entrer qu'en laisse. J'étais sur le point de lui raconter toute la scène, les deux moustachus, la porte qui claque, la clé à l'intérieur et Saba qui file dans l'escalier, mais je me ravisais. Si vous désirez vous introduire dans un endroit dont l'entrée vous est refusée, il n'est jamais raisonnable de jouer la sympathie. Et si en plus vous avouez qu'une porte vient justement de se refermer sur vous, il devient absurde, voire louche, d'espérer qu'on vous en ouvre une autre. Nous n'avons pas eu le temps de nous munir d'une laisse, dis-je. Réfléchissez, monsieur. Votre ami porte un collier, je suis certain que vous allez trouver une solution. J'allais fumer une cigarette sur le trottoir en face. Saba observait les pigeons. Il était assis, calme, et sa tête dodelinait contre ma jambe gauche. Pourquoi m'inquiéter ? Pointel arriverait bientôt, il arrangerait tout. Et puis je me sentais bien sur ce trottoir. Il y avait une lumière douce dans les arbres, du vert partout, du bleu, et ce vent léger où flottent les désirs. Depuis quand n'étais-je pas sorti ? Il semblait facile d'être délivré. La délivrance n'est jamais que le nom de cette facilité qui le plus souvent nous semble lointaine. Les rues s'élargissaient. Une émotion légère se transportait de visage en visage. Des passantes caressaient la tête de Saba et me souriaient. C'était une joie claire qui se propageait comme une ivresse jusqu'à la place de la Bastille, où l'ange porteur de lumière brandissait ses chaînes brisées dans un tumulte de reflets d'or qui éblouissait ce début de soirée. À l'entrée du restaurant, étalé sur un lit de glace, les huîtres me faisaient envie. Leurs coquilles étincelaient comme de petites lumières accrochées sur une falaise. La nacre appelle les miroitements. On dit qu'une huître sécrète une perle de ce qui la blesse. Alors la blessure est désirable. Elle accueille le zeste de citron qui, tandis que j'écris ces phrases, me met l'eau à la bouche. « Je vais boire à ses bords dentelés, me disais-je. Je vais susauter la perle. » Oui, l'eau à la bouche, tout vient de là. Le monde n'existe que pour donner du désir. Je m'étais appuyé contre le mur à côté d'une boutique de chaussures de luxe où un tapis de lierre mêlé à de belles grappes violacées formait comme une toison fraîche. C'était bon de sentir contre soi la douceur du feuillage et le parfum sucré de la glycine. Et tout en convoitant les huîtres qui, là-bas, de l'autre côté de la rue, prodiguaient leur éclat, je pensais un passage de La Tempête de Shakespeare, qui parle de la naissance des perles. Je l'avais abondamment cité dans The Great Melville, car j'y voyais l'un des secrets que Melville avait découvert, et voici que je me le récitais pour le plaisir. Par cinq brasses sous les eaux, ton père engloutit sommeil. De ses os naît le corail. De ses yeux naissent les perles, rien chez lui de corruptible, dont la mer ne vienne à faire quelque trésor insolite. Tandis que je les répétais, ces vers s'entrelaçaient à la glycine et je sentais grandir en moi tout un lierre de phrases, vers et frais comme l'océan où gisent les perles englouties. De ses os naît le corail, me disais-je, de ses yeux naissent les perles. Et je voyais l'immensité sous-marine parcourue de squelettes où germaient de longues tiges minérales rouges, semblables à des algues dures qui, à travers l'obscurité, me faisaient signe. Elle me disait qu'il est bon de ne pas se détourner des abîmes, car c'est là que le corps se change en perles. C'est là que la mort se transforme en une vie rouge et dure, c'est là que le temps se cristallise. Le fond des mers est peuplé par une mémoire qui attend son réveil. Et voici qu'en récitant ces phrases, le corps tressé de glycine, entièrement parcouru de lierre, je plongeais à mon tour au plus profond des eaux pour y cueillir la chose unique et rare qui m'est destinée. « Rien n'est caché, me disais-je. Tout est encore là. Il n'y a pas de voile. » Le mystère contenu dans les vers de Shakespeare indique une métamorphose de toutes les vies passées et le secret de leur résurrection à travers notre désir, car rien, ni personne, ne meurt jamais tout à fait. Chaque étincelle de vie attend d'être reconnue par ceux qui parmi nous fréquentent les abîmes. On croit toujours que les pères sont morts, mais chaque fois des perles, des coraux, et tous les autres trésors possibles naissent à leur place et attendent que nous les trouvions. Ce quelque chose de riche et d'étrange dont parle Shakespeare, cette idée du trésor qui n'attend que nous, je n'y ai jamais renoncé. Quelque part à l'autre bout du monde, sur une île peuplée de cerfs, au cœur des montagnes rocheuses ou d'une prairie illuminée, dans un désert de neige, un ghetto en Pologne, une émeute de sans-papiers, une chambre tapissée de livres messianiques, ou même ici, au coin d'une rue ensoleillée à travers les reflets orange et vert du pare-brise d'une Mercedes couleur saumon stationnée devant moi, dans la fraîcheur parfumée de miel d'un mur de glycine, dans l'excitation d'un dalmatien qui s'amuse à chasser les pigeons rue de la Bastille, je sais qu'une chose m'attend, une chose étrange et riche, un trésor. Et ce trésor, je ne pense qu'à lui. Tous mes gestes, mes désirs, mes pensées, même les plus frivoles, même ceux qui semblent m'éloigner de l'essentiel, lui sont consacrés. Lorsqu'on vous savie à déchiffrer un message qui est invisible, il faut s'attendre à rencontrer des obstacles, à se perdre dans l'inutile, à être la proie de multiples dérapages. Mais même la plus aberrante sortie de route fait encore partie de la voie. Oui, lorsque, en avril dernier, j'avais trouvé cette phrase de Melville sur la vérité forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché, il m'était apparu qu'à l'horizon de mes aventures, ou plutôt de mes mésaventures, car mes journées, vous l'avez remarqué, ont cette couleur un peu foireuse qui leur donne un air de comédie, s'ouvrait bel et bien, en dépit des zigzags et parfois grâce à eux, une direction, un sentier, une route. Je voudrais le dire. Le temps d'un paragraphe, en des termes mystiques, car décidément mon séjour dans la glycine en compagnie de Saba le soir de mon anniversaire m'avait enveloppé dans ce qu'il faut bien nommer une extase. Il existe un point où Dieu ne cesse de disparaître, où c'est moins son absence qui nous saute au visage que le moment exact de son effacement. Il suffirait qu'on fixe son esprit sans s'arrêter sur ce point pour que la mort n'existe plus. La flamme qui s'allume ici annonce des clartés qui suffiront à nourrir ma solitude jusqu'à la fin de ce livre. Un Dieu mort est plus lourd à porter qu'un Dieu vivant. Son inexistence occupe nos vies entières. Elle ne cesse de noyer nos âmes dans l'oubli d'un deuil impossible à nommer. Et ses yeux, ses os, son invisible carcasse, ne gisent au fond des eaux qu'afin de susciter la perle qui nous est destinée. Les dieux sont la parole de tous les morts qu'ils font vivre et dont ils se nourrissent. Celui qui saurait plonger assez profond pour manger le corail du Père, plus aucune limite ne le retiendrait. Il arrive qu'on parle avec le feu, mais plus rares sont les instants où le feu lui-même vous irradie, où la lumière vous soulève, où votre vie ruisselle. Car en avalant les os, vous devenez la perle. Il était 20h15, toujours pas de pointelle. J'observais Macron qui accueillait chaque client avec une majesté obséquieuse et ironique. De temps en temps, il nous jetait un coup d'œil à Saba et à moi comme à des pouilleux qu'il faut tenir éloignés. Je l'avais d'abord pris pour un de ces employés psychorigides qui appliquent le règlement à la lettre, car la plus minime transgression détraquerait leur esprit. Mais non. Ce type était payé pour faire le tri. Il refoulait les parias comme ces flics infiltrés parmi les douaniers à Ellis Island qui repéraient au premier coup d'œil parmi les immigrés venus chercher fortune en Amérique la présence d'un éventuel hors-la-loi. et qui, faute d'en avoir trouvé, en désignait un d'office. Ce soir, le paria, c'était moi. N'était-il pas temps que je fasse signe à Pointel ? Mais j'avais peur qu'il ne voie dans mon SMS un signe d'impatience. Je décidai donc d'attendre encore 5 minutes. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Donc, la suite de ce roman de Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.